84,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin avec l'assistance de Marie-Vonne, diffusé en direct lundi 15 janvier 2007 de 18h à 21h, en différé mardi 16 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique contact@radiocourtoisie.com.
Bonsoir chers auditeurs, pour ceux qui nous écoutent en direct, bonjour pour ceux qui nous écouteront demain. Bonne nuit pour ceux qui nous écouteront à 2h du matin. Nous recevons dans cette émission pour la première partie trois personnalités qui vont nous parler de la repentance. La France doit-elle faire repentance? Tel est le sujet de notre première partie. Je crois que c'est un sujet qui aurait plu à notre ami, à notre cher ami Jean Ferré,
ah, hein,
la repentance.
Oui, hein. Certainement, oui.
Oui, et c'était je vous rappelle que c'était lui qui conduisait jusqu'à sa mort le libre journal du lundi soir et auquel j'ai succédé. Alors nous recevons le professeur Jean-Louis Beaumont, bien connu des auditeurs, maire de Saint-Maur-des-Fossés, ancien professeur de médecine.
Oui, c'est ça. Hein,
qui a écrit dans le sable de l'action, nous a-t-il dit avant d'entrer. C'est-à-dire
belle
que
formule.
Ce n'est pas un écrivain, c'est un homme d'action qui a été un homme politique et qui le demeure puisqu'il est maire de Saint-Maur-des-Fossés. Et c'est aussi un homme qui a sauvé des vies, qui a amélioré la santé de son prochain. Voilà.
Essayez de servir.
Nous recevons le maître des études médiévales.
Je vous en prie.
Alors, c'est le professeur Jacques Herz. Alors, pardonnez-moi, professeur, mais vous savez qu'on apprend dans les écoles de journalistes qu'il faut dire, je parle sous le contrôle de Michel de Gégère, que je n'ai pas encore nommé, il faut dire Victor Hugo, virgule, grand poète français. Donc, je dis Jacques Herz, maître des études médiévales. Je vais même aller encore plus loin dans mon insolence, parce que je vais préciser que ça s'écrit H-E-E-R-S.
Oui.
C'est un nom germanique d'origine, non?
Flamand, plutôt.
Ah, flamand. Bah, flamand, c'est germanique, oui. Bon. Voilà. Et puis, alors je n'ose même pas l'épeler votre nom, cher Michel. Michel de Gégère, si.
Hein? C'est un nom flamand aussi.
Ah, flamand aussi. Alors donc, c'est... je ne l'ai pas fait exprès. C'est une soirée belge.
Ça n'a rien de belge, c'est flamand.
C'est flamand.
Alors, dans une province française, comme un petit peu d'histoire et de géographie.
Bien, voilà. Alors soyons sérieux. Michel de Gégère, écrivain et journaliste, et il a écrit un très beau livre qui s'appelle « La repentance, histoire d'une manipulation ». Aux éditions de Renaissance catholique, qui est un livre consacré à la repentance que l'Église catholique a manifestée à travers en particulier les propos de feu le pape Jean-Paul II, à de nombreuses reprises, et notamment dans la grande cérémonie de pardon du 12 mars 2000. La cérémonie du jubilé, je crois, non?
Oui, enfin, oui. C'est au cours du jubilé.
Au cours du jubilé. Et puis... Jacques Herz, le professeur Jacques Herz, qui a écrit aussi certainement dans le sable de l'action, mais qui a écrit aussi sur les feuilles du papier,
là, oui.
Et a écrit l'histoire assassinée. Alors il y a un sous-titre, je crois, l'histoire assassinée.
Les pièges de la mémoire.
Les pièges de la mémoire, voilà. Et il a survolé l'histoire pour montrer à quel point ce qu'on nous disait, et même ce qu'on nous apprenait, était souvent très loin de la vérité. Très loin de la vérité historique. Alors... Je vais commencer par interpeller notre ami Michel de Gégère. parce que c'est un expert en questions religieuses, c'est, je crois, un bon catholique, et il va même, je l'ai entendu dire parfois, écouter des messes en latin, et il dit en se battant la poitrine avec le poing, mea culpa, mea maxima culpa, ce qui veut dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Alors, pourtant, Michel de Gégère, dans ce livre que je dis très beau parce qu'il l'est réellement, vous avez eu l'audace, veux-je dire l'impudence, de dire que la repentance c'était mal, enfin, on n'avait pas dit ça comme ça, c'était plus subtil, mais enfin, vous avez quand même critiqué fortement la vaste campagne de repentance tous azimuts développée dans l'Église de France et en dehors d'elle. Alors comment pouvez-vous, vous qui êtes catholique, qui êtes chrétien, qui dites mea culpa, mea maxima culpa, refuser l'appel à la repentance?
Et parce que justement, la repentance est une contrefaçon. C'est la première manipulation. Mon livre s'appelle « La repentance, histoire d'une manipulation ». La repentance est en elle-même une manipulation, puisque c'est une singerie du repentir, et que le repentir est un sentiment authentiquement chrétien. Et c'est l'un des plus anciennes, une des plus anciennes pratiques des chrétiens, une ancienne pratique de l'Église, que de reconnaître ses fautes. Mais le repentir, cela consiste à reconnaître ses fautes devant Dieu, à reconnaître que l'on est soi-même un pauvre homme et un pécheur. La repentance, c'est pas ça du tout. La repentance, c'est autre chose. La repentance, ça consiste à mettre en accusation nos pères, non pas devant Dieu, mais devant le monde, et non pas pour se reconnaître soi-même un pécheur, mais au contraire pour recueillir le soutien du monde, le soutien de l'opinion publique, son assentiment. La repentance, ça consiste à dire « Nos pères étaient pécheurs, mais voyez comme nous, nous sommes bons ». C'est au fond la prière du pharisien de l'Évangile, c'est le contraire du repentir, puisque ça consiste à essayer de solliciter le soutien et l'assentiment de l'adversaire en reniant nos pères, en reniant l'Église, en reniant le passé de la chrétienté, le passé de l'Église catholique. Donc vous voyez que ça n'a pas avec le repentir qu'un lien purement sémantique, les mots se ressemblent, mais ils veulent dire le contraire l'un de l'autre. Et c'est si vrai que justement, il est toujours caractéristique dans ces manœuvres subversives, lorsque l'on s'aperçoit que l'on change les mots, eh bien, c'est le moment où on peut mettre son intelligence en éveil, car il est probable que quand on change les mots, c'est parce qu'on veut changer la chose. Rappelez-vous que on a cessé de dire le catéchisme pour dire la catéchèse, eh bien, ce changement de catéchisme en catéchèse a correspondu à un changement beaucoup plus profond qu'un changement de vocabulaire. C'est le contenu même du catéchisme qui a été changé. On a cessé de parler de Saint-Sacrifice de la messe, on a parlé d'Eucharistie, là encore il y avait un changement de fond qui était intervenu. Eh bien pour le repentir et la repentance c'est la même chose, la repentance c'est au fond le contraire du repentir. Et quelqu'un qui avait vu cela avant même que le phénomène n'apparaisse sur la place publique, c'est pour ça que je crois que sur le plan de la repentance nous pouvons être relativement rassurés quant à la position future de l'Église catholique, eh bien c'est le pape actuellement régnant. Car alors qu'il était le cardinal Ratzinger en 1984, il a donné, vous en souvenez, un entretien sur la foi à la revue Jésus, qui est devenu l'année suivante un livre paru chez Fayard, Entretien sur la foi, et il soulevait une évolution qui avait lieu dans la liturgie et qui lui paraissait extrêmement significative, et cette évolution visait une phrase que le prêtre prononce juste avant de communier à la fin de la messe. Avant la fin de la messe, le prêtre, dans la liturgie romaine, dit « Domine Jesu Christe, ne respicias peccata mea, sed fidem ecclesiae tue ». C'est-à-dire « Seigneur Jésus, ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église ». C'est bien dire que les péchés sont à moi et que l'Église est à Dieu. Et le cardinal Ratzinger soulignait une évolution qui s'était passée dans la pratique de la liturgie, à défaut de s'être faite cette fois-ci dans les textes, c'était qu'on en était venu dans les traductions diverses, eh bien, à dire « Seigneur Jésus, ne regardez pas nos péchés », c'est-à-dire que le péché était collectivisé. Et il disait, on en vient finalement à cette signification signification qui est que le prêtre finit par dire « Seigneur Jésus, ne regardez pas les péchés de votre Église, mais regardez ma foi. » Et c'est donc un renversement complet de la théologie catholique qui consiste à nous souvenir, encore une fois, que les péchés sont à nous, mais que l'Église est à Dieu. Alors, nous savons, bien entendu, que l'Église contient en son sein des pécheurs. Ça, c'est le mystère de l'incarnation. Depuis que l'Église existe, elle contient en son sein des pécheurs, mais ça ne l'empêche pas de rester sainte et immaculée. Le docteur Dore a une formule lapidaire à ce propos, que j'aime beaucoup, que je cite. Il dit « L'Église, en quelque sorte, est pécheresse. » Le propos est impropre. Mais elle est pécheresse parce que nous y sommes, et elle est sainte parce que Dieu y est. Je crois que ça résume la foi catholique en cette matière.
Oui, avec une impropriété quand même.
Oui, l'impropriété dans le ferme de dire que l'Église est pécheresse.
Il faut faire attention. Hein. Bon, alors écoutez, cette discussion n'est pas seulement religieuse, c'est une discussion politique, hein, professeur Hers. Et la repentance, est-ce que vous adhérez à ce discours omniprésent de la repentance?
Non, au discours omniprésent, pas du tout. Au discours de Michel de Jaeger,
oui,
sans aucun doute.
Qui est un discours critique.
C'est que je n'avais pas fait, comme vous venez de le faire excellemment, la distinction entre les deux mots. Et vous avez là un exemple manifeste, n'est-ce pas, de mots qui sont dits très très mal employés. Et c'est toujours à dessein.
Alors, Dans le dictionnaire, repentance, c'est strictement synonyme de repentir.
Dans le dictionnaire, on trouve repentance comme une forme vieillie. Enfin, dans les dictionnaires qui ont plus de 5 ou 10 ans, on trouve repentance comme forme vieillie et abandonnée du mot repentir. Donc les deux mots étaient équivalents.
Oui,
et on a remis à la mode un mot ancien pour lui donner une valeur subversive.
Non, moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, en étant très terre à terre, expliquer ce que, en tant que personne, citoyen, j'en pense, c'est que s'il s'agit d'un péché que j'ai commis, ou d'un regret que j'ai, j'en fais repentir. Ça me concerne moi. Je peux bien en parler peut-être à la personne intéressée, si elle est encore en vie, mais je ne le clame pas sur les toits. Et à partir du moment où cette démarche, repentir ou repentance, donc en l'occurrence, devient publique, elle est faussée. Et c'est un peu comme en histoire, puisque vous me dites historien, n'est-ce pas? C'est un peu la même chose. Je dis à mes étudiants, ou je dis à ceux qui veulent bien m'écouter, qu'un texte écrit, une mémoire, si vous voulez, n'a de valeur que si celui qui l'a écrit sait qu'il ne sera pas lu. Et celui qui fait repentir en sachant que ce sera divulgué sur les ondes et par les médias, eh bien, naturellement, il y a quelque chose d'artificiel.
Ah oui, mais attention, là c'est encore plus grave. C'est qu'on fait repentir, ou plutôt repentant, sur la poitrine des autres. On se bat la coupe sur la poitrine d'autrui. C'est quand même une opération assez particulière du point de vue chrétien.
Mais vous avez tout à fait raison, et je ne peux pas m'empêcher non seulement d'adhérer, mais de vous dire que j'y allais plus ou moins, n'est-ce pas, un moment. Je trouve d'abord que, généralement, ça concerne le passé. Or là, c'est extrêmement délicat. Et effectivement, il y avait, dans les habitudes des pays civilisés, le mot de prescription. Et ce mot de prescription est souvent très mal conçu, très mal compris. On pense que c'est une affaire de pardon. Personnellement, je pense non, ou tout au moins pas seulement. Il y a prescription parce qu'on ne sait pas ce dont on parle. Et parce que les gens qui sont appelés à juger ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été dans cette situation-là.
Non, mais je crois aussi que les philosophes de la société reconnaissent que le droit ne peut être fondé que sur une forme de prescription. Parce que peut-être
oui,
que
mais pas les pratiques actuelles.
Les ancêtres à la 30e génération de ceux qui possèdent un bout de champ ont été des spoliateurs, des envahisseurs qui ont arraché le champ à celui qui le possédait légitimement à l'époque.
Mais c'est une attitude dépassée actuellement dans nos mœurs judiciaires. On voit paraître jurés dans tel ou tel procès des gens qui n'étaient pas nés au moment de l'affaire, par exemple, et qui ne savent pas ce que eux auraient pensé. Alors ce que je veux dire, pour ne pas vous accabler, n'est-ce pas, de généralité, c'est que effectivement, il y a un très grand danger de la part des communautés, quelles qu'elles soient, religieuses, l'État lui-même, de repentir pour le passé, parce que il s'expose, je dirais, à deux dangers, n'est-ce pas, l'exploitation. l'exploitation politique qui ne manque pas de se faire, qui est à l'affût, n'est-ce pas? Bien entendu, à peine la chose a-t-elle été prononcée, que même la veille, Michel de Gégère le disait tout à l'heure quand nous parlions entre nous, même avant même que le texte soit connu, on en tire une conclusion. Donc ça, c'est le premier piège, il est très grave. Puis alors le deuxième, je suis obligé d'être très irrévérencieux, quelle que soit aussi mon opinion vis-à-vis des personnes qui souvent prononcent une repentance, mais c'est qu'ils ne savent pas vraiment ce dont ils parlent. Parce qu'ils se fient à ce qui court dans l'opinion publique, à ce qui a été dit, n'est-ce pas ? Et donc ils se trompent généralement.
Dans la meilleure hypothèse, où ils ne font pas une manipulation, c'est-à-dire ils n'agissent pas délibérément pour occulter la vérité.
Oui, certains sont sincères, ou tout au moins ils pensent.
Dans le livre de Michel de Gégère, les cas de manipulation sont manifestes.
Je ne parle pas de manipulation, je parle de celui qui édicte la repentance. Et celui-là croit être bon, sincère, il pense avoir raison, et puis, bien entendu, on lui a seriné, je sais, j'ose dire, tout au long de son éducation, des vues tout à fait fausses.
Alors, mais si je puis me permettre, sur ce plan-là, ce qui est frappant dans le phénomène de la repentance lancé par Jean-Paul II, c'est que, justement, dans un certain nombre de cas, il a essayé d'éviter cet obstacle. Je pense à deux cas qui sont la question juive et la question de l'Inquisition. Le pape a fait organiser des colloques à Rome avec toutes sortes de chercheurs pour avoir une vision équilibrée des choses en disant on ne peut pas demander pardon sans avoir d'abord bien étudié le dossier, fait la part des choses. Et il répète dans tous ses discours, il ne faut pas demander pardon pour les légendes noires qui sont véhiculées par les médias, il faut demander pardon après avoir établi les faits. Et ça n'a servi à rien. Pourquoi ça n'a servi à rien ? Parce que le phénomène de réduction médiatique dans lequel on vit, fait que quel a été le résultat de ces choses ? Eh bien, le jour où le pape a dit « je vais organiser un colloque sur l'Inquisition pour voir les choses », les journaux ont titré « Le pape demande pardon pour l'Inquisition ». Le jour où le colloque s'est réuni, les journaux ont titré « Le pape demande une nouvelle fois pardon pour l'Inquisition ». Le jour où les journaux, le colloque a publié les résultats qui sont quelquefois très nuancés, qui sont quelquefois très sérieux, le grand colloque à Rome sur l'Inquisition a donné un livre de 931 pages, que je n'ai pas personnellement lu parce qu'il est en italien, il n'a pas encore été traduit en français, mais dont j'ai lu quelques extraits, quelques recensions. Il y a là-dedans des informations très intéressantes. Eh bien, cette publication est accueillie, encore une fois, en titre des journaux. Le pape demande une troisième fois de pardon pour l'Inquisition. Que retient le bon peuple qui regarde la télé, qui lit les journaux, qui écoute la radio ? Il se dit, mais le pape ne cesse de demander pardon pour l'Inquisition. Et le commentaire du journaliste radio-télé va être, lui, et pas de bonne foi, ou peut-être par ignorance, va être, lui, alors, le répépiment de la légende noire. Donc tout l'effort pour établir les faits aura été réduit à néant.
Non, mais nous allons revenir sur l'attitude de feu le pape Jean-Paul II, qui aurait pu peut-être prévoir les conséquences de cette offensive médiatique et qui aurait pu s'attendre à ce que le thème de la repentance soit exploité par les ennemis de l'Église et les ennemis de l'Occident. Donc je voudrais que Jean-Louis Beaumont nous dise ce qu'il pense, lui, de ce thème de la repentance. Est-ce que nous sommes tous coupables, nous Français, nous Occidentaux, nous Chrétiens? Et est-ce que nous devons en permanence nous flageller devant l'opinion publique mondiale, la conscience universelle?
Je crois que l'action qui vise à dire qu'il y a une responsabilité collective et à diffuser cette notion, à accuser en quelque sorte une collectivité pour des actions, je crois que il faut absolument replacer le problème de la responsabilité dans le cadre du repentir, et que il faut que cette responsabilité, ce repentir, soit placée au niveau des personnes. Et que c'est à ce niveau-là que la question peut être réglée. Que si par contre on le place au niveau de l'action collective, certes il y a des actions collectives qui sont absolument condamnables et qui sont horribles, mais dans ces actions collectives, il y a des malheureux, il y a des personnes qui sont des manipulés. et manipulé notamment dans le domaine de l'ordre tribal, qui est un recours permanent pour les maîtres de se justifier par rapport aux esclaves, et qui est absolument néfaste pour la vie d'une société.
Oui, alors là je m'adressais à l'homme politique, parce que Michel de Jaeger a traité un sujet religieux. Mais c'est un sujet religieux qu'on doit replacer dans un contexte plus large, parce que le thème de la repentance n'est pas simplement celui qui a été développé abondamment dans l'Église catholique. Jacques Chirac lui-même a fait ce que ses prédécesseurs présidents de la République avaient toujours refusé de faire, c'est-à-dire reconnaître, admettre que la France en tant que telle était collectivement responsable dans la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tous ses prédécesseurs, présidents de la République, depuis Vincent Auriol jusqu'à François Mitterrand, ont tous refusé d'entrer dans cette logique. Et je me rappelle, c'est d'ailleurs cité par Michel de Jaeger dans son livre, ce qui prouve qu'il n'est pas resté exactement dans le sujet de la religion, je me rappelle très bien l'émission extraordinaire d'intensité dramatique où M. El Kabbach, interrogeait feu le président François Mitterrand. Bon, personne autour de cette table, je suppose, n'a une grande... Marie-Vonne, vous n'avez pas de sympathie particulière pour feu le président Mitterrand. Vous n'en aviez pas et vous n'en avez toujours pas. Mais là, franchement, à certains égards, son attitude a forcé l'admiration. Parce que El Kabbach était visiblement chargé d'arracher un aveu de culpabilité à François Mitterrand. Et peut-être pensait-il qu'il y parviendrait, parce que c'était en 1994... Mitterrand a quitté ses fonctions en 1995, il est mort à la fin 95, je crois.
Oui.
Bon, il était très malade, ça se voyait, très malade. Et d'ailleurs, El Kabbach a eu l'impudence de l'interroger de manière tout à fait déplacée sur sa maladie. Et il lui a demandé de reconnaître que la France était coupable. Et je me rappellerai toujours Mitterrand répondant « Non, pas la France, pas la République. » Autrement dit, certaines personnes ont commis des actes que nous condamnons. Mais pas la France, pas la République. Et c'est un peu, pardonnez-moi, comme l'Église catholique. Il y a une personne morale, le terme moral en l'occurrence peut s'employer dans les deux sens. Une personne morale, alors, qui est un peu plus qu'une personne morale quand il s'agit de l'Église, mais qui est aussi une personne morale. Et une institution sacrée, si vous préférez, pour l'Église catholique. Une personne historique pour la France. Et qui est en partie détachable, qui ne se réduit pas aux individus qui la composent ou qui la représentent à un moment donné dans l'histoire. Voilà. Et on ne peut pas faire l'amalgame. Justement, il y a dans la patrie, il y a un degré plus élevé dans l'Église, un appel vers le haut qui signifie qu'on ne peut pas la condamner pour ce que les hommes eux-mêmes, qui ont les pieds dans la glaive, peuvent faire de mauvais. Et ce qui est grave, alors j'en reviens maintenant à la politique, ce qui est grave, c'est que Jacques Chirac, justement, tenant, paraît-il, des promesses qu'il avait faites, notamment au président du CRIF, mais ça, je n'étais pas là pour le vérifier, a, le 16 juillet 1995, juste après son élection, prononcé un discours retentissant, en commémoration de la rafle du Veldiv, pour reconnaître solennellement la culpabilité de la France. Alors, j'ai sous les yeux le beau livre de Michel de Jaeger, je ne vais pas le dire à chaque fois que c'est un beau livre, mais c'est un très beau livre. La repentance, aux éditions de Renaissance catholique. Et là, je cite Jacques Chirac. Ces heures noires, souillent à jamais notre histoire. Souillent à jamais notre histoire, c'est quand même incroyable. Et sont une injure à notre passé et à notre tradition, ça je veux bien. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
Par l'État, oui.
C'était déjà... Alors, l'État français, c'est une ambiguïté, parce que c'est le terme qu'utilisait Pétain. Bon. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Pourquoi l'irréparable? Manquant à sa parole, quelle parole? Livrait ses protégés à leurs bourreaux. Nous conservons à l'égard des déportés juifs de France une dette imprescriptible. Mais c'est incroyable. Moi, né en 1949, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit dans cette affaire. Pourquoi est-ce que les gens qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale devraient se sentir quoi? Et pourquoi d'ailleurs faire une différence entre les Français juifs et les Français qui ne le sont pas à cet égard? Hein? Pourquoi est-ce qu'un Français chrétien devrait avoir une dette, se sentir une dette à l'égard d'un Français juif qui lui-même est né après la Seconde Guerre mondiale, et qui n'est pas forcément le fils ou le petit-fils d'une victime de la persécution nationale socialiste. Donc cette notion de dette imprescriptible que les Français en général auraient à l'égard d'une partie d'entre eux, est choquante du point de vue des principes républicains. Je suis obligé de dire que le président de droite, Jacques Chirac, n'a pas été fidèle aux principes républicains que François Mitterrand a défendu, lui, jusqu'à son dernier souffle. Et je dis à Marie-Yvonne qu'en disant cela, je n'appelle pas à voter pour la gauche le 22 avril. Parce que quand j'émets des propos, alors Marie-Yvonne ici est la gardienne du temple, et dès que j'ai un écart de langage avec une plaisanterie, une ambiguïté qui pourrait laisser croire que j'ai des sympathies pour la gauche, vous êtes à peu près la seule que je connaisse qui croit que j'ai des sympathies pour la gauche.
Ah non, hein, vous me parlez du sourire de Ségolène,
nous sommes sur un sujet sérieux, mais si vous voulez que je peux gloser sur un sujet moins sérieux, non, qui est le physique de Ségolène, mais Jean-Louis Beaumont.
Monsieur de Lesquin, je saisis l'occasion de ce rappel que vous faites pour dire qu'aujourd'hui, il semble, et j'ai lu plusieurs articles qui vont dans cette direction, et ce sont, je crois, des personnalités très engagées, des personnalités juives très engagées, regrettent que l'accusation collective ait empêcher ou empêche de mettre en valeur et en évidence l'action des justes. Il y a actuellement un recours, n'est-ce pas, dans ce domaine, disant mais c'est dommage parce que on a oblitéré le rôle de ces personnes.
Attendez, chacun sait qu'il y a eu notamment beaucoup de prêtres qui ont pris des risques considérables, et d'ailleurs Michel de Gérard le rappelle dans son livre, pour sauver des juifs persécutés par l'Allemagne et national-socialisme, nous savons bien. Mais l'histoire complexe a été d'ailleurs écrite, peut-être pas par Jacques Hertz, mais par François-Georges Dreyfus, par exemple, beaucoup d'autres auteurs,
par lui,
et qui ont montré que la situation était complexe, la France était occupée, les choses n'étaient pas simples, mais que beaucoup de gens ont été admirables, bien. Mais moi, je veux, au-delà de cette discussion sur les individus, je crois qu'on ne peut pas réduire la France à une page plus ou moins sombre de son histoire ou à l'action de telle ou telle personne. Non. La France, c'est une immense histoire. Et c'est là que je me tourne vers l'historien, Jacques Hertz.
Non, c'est pas...
Moi, je voudrais vous dire, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que les auditeurs de Radio Courtoisie en sont quasiment tous persuadés que nous avons une grande histoire, nous, Français, que la grandeur de la France est une réalité. Mais je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi nous devons refuser de céder au pathos médiatique de la repentance à propos de notre histoire. Il faut rétablir la vérité des faits, donc lire l'histoire assassinée de
merci beaucoup.
Jacques Hertz aux éditions de Paris. Et un sujet dont je voudrais que vous nous parliez, c'est les croisades. Alors les croisades, est-ce que nous devons considérer que les croisades,
je vous réponds,
c'est un forfait épouvantable? Expliquez-nous ce que c'était que les croisades en 5 minutes.
Non, mais écoutez, avant je voudrais dire un mot, si vous permettez, qui est ceci. Je crois qu'au fond, cette repentance d'Ascalais, tout ce que vous venez de développer, prouve qu'il y a un péché envers l'histoire. Car le plus grave défaut de l'histoire, ou de l'historien qui n'en est pas un, c'est de chercher à juger. N'est-ce pas? Il doit expliquer d'abord. Donc quand vous faites repentance et quand vous condamnez, vous n'expliquez pas...
Quand on fait, excusez-moi.
Quand on fait.
Moi,
je
fais repentir éventuellement, modestement,
ou alors on va dire on, si vous voulez. Alors en ce qui concerne les croisades, oui, bien sûr, là ça a été une déferlante, n'est-ce pas, au moment où on a voulu célébrer cela, 95, la première croisade, ça remonte donc déjà à un bon nombre d'années, à plus de 10 ans. C'était vraiment une folie, et il y a eu une déviation historique.
Alors rappelez-nous la vérité historique.
La vérité historique, elle est exactement ceci. Croisade n'est pas une guerre sainte, pour la raison très simple que les gens, tous, sans exception, qui sont allés là, sont allés en pèlerinage auprès du tombeau du Christ, et qu'ils n'avaient, et maintenant je pèse davantage mes mots, parce qu'ils me paraissent plus importants, ils n'avaient aucune idée de ce qu'était l'islam. il n'en avait jamais entendu parler. Vous avez quatre chroniqueurs remarquables qui étaient tout au long avec les croisés, qui ont participé à toute l'exposition.
Qui s'appelait comment?
Oh, ben ça, il y a eu Raoul Glaber, enfin il y en a des... Pas Glaber. Raoul Glaber, non, pas celui-là. Glaber, non, d'autres, n'est-ce pas? Et ces gens-là, n'est-ce pas, dans tous leurs livres, dans quatre livres qui sont quand même chacun assez importants, n'emploient jamais le mot Mahomet ou le mot Islam. Quand ils vont là-bas, ils vont reprendre les terres chrétiennes. Et une chose que l'on a complètement négligée, et que moi-même dans le livre que j'ai écrit là, n'ai pas mis assez en valeur, c'est le fait qu'on a reconquis des terres. Mais ces terres, au moment où on arrive, Syrie, Palestine, etc., étaient en majorité de population chrétienne.
Ah,
bien sûr. Ils étaient sous domination musulmane, mais en majorité de population chrétienne. Et l'optique que l'on a d'une guerre, n'est-ce pas, à l'islam, fausse tout. Parce que, par exemple, la sottise que l'on a écrite, lorsqu'on écrit que les croisés, pour un moment, ils étaient séduits, bien entendu, et par la civilisation musulmane, qui était, comme on le sait, formidable, ils n'avaient jamais rien connu de tel, et par les filles du pays, qui étaient aussi formidables. Donc, il y a eu des mariages mixtes. Mais ces mariages mixtes sont entre occidentaux et chrétiens d'Orient, et chrétiennes d'Orient. Ils n'ont pas épousé des musulmanes du tout. Ça court dans tous les manuels, n'est-ce pas? Et partout.
Alors, les chrétiens sont partis pour libérer les lieux saints.
Et ils sont partis pour faire un pèlerinage. Et comme on pouvait plus, du fait des Turcs qui étaient là, faire un pèlerinage sans se battre, et surtout, c'est une chose que l'on oublie, parce que l'on parle de la croisade des barons. C'est vrai, c'était des militaires, c'est des gens qui ont réussi, n'est-ce pas, en Anatolie, là, deux coups militaires extraordinaires, avec une suprématie de l'adversaire qui était énorme. Mais ces gens-là ont traîné avec eux des milliers de pèlerins pauvres, des milliers. Ils étaient même pas le dixième du contingent, ceux qui se sont battus. Donc ils sont allés pour permettre à des gens qui n'avaient pas un sou de pouvoir prier à Jérusalem. Et ça, dans une vie religieuse, c'est quelque chose d'important.
Et le terme de croisade n'existait d'ailleurs même pas à l'époque.
Jamais, il n'a jamais existé avant assez longtemps, on ne le voit pas paraître. Voyez-vous, en histoire, je n'ai plus l'âge, hein. Je n'aurai pas le temps de le faire, et pas les moyens peut-être, mais il serait toujours passionnant d'essayer de voir quand les mots faux ont été inventés.
Alors vous avez déjà écrit cela pour le Moyen-Âge?
Oui, une fois, oui, parce
dans
que
un
ça
livre
c'était connu.
Remarquable aussi, le Moyen-Âge.
Oui, c'est au XVIe siècle, posture. Comme ça, sur la pointe des pieds. La Renaissance, c'est au XIXe seulement. Mais croisade, le terme, si vous voulez, commun, l'emploi commun du mot, je ne sais pas quand.
Alors, on peut quand même dire que les croisades ont été certes, évidemment, un grand élan de foi chrétienne, mais aussi... Alors, avec quelques bavures, pour employer un langage moderne, hein, comme la quatrième croisade, ça a été quand même une histoire extrêmement héroïque.
Ah oui.
Les croisés étaient des héros. Enfin, beaucoup d'entre eux ont eu des comportements héroïques.
Mais voyez-vous, excusez-moi, je vous interromps, pardon, mais la question que je pose en général, et on ne peut pas s'éterniser là, pourquoi dit-on normalement la Reconquista pour les Espagnols et qu'on ne dit pas la Reconquête pour l'Orient?
On devrait dire aussi les croisades pour l'Espagne.
On dirait, parce que les Espagnols ne se laissent pas faire jusqu'à présent.
Mais pourquoi les croisades, ça, vous n'aimez pas ce terme?
Si, j'aime justement. Et j'aimerais qu'au lieu de croisade, on dise Reconquête.
Ah oui, oui, oui.
Dans ce sens-là.
Sauf que ce n'était pas vraiment une reconquête, puisque les Francs, les Français n'étaient pas là.
Les chrétiens étaient là.
Les chrétiens, mais pas les Francs.
Ah, oh, bah oui, même, c'est pas non plus les Visigoths qui ont reconquis l'Espagne, oui.
Ouais.
Non, c'est les Bourguignons qui sont venus.
Ouais. Vous voulez dire quelque chose sur les croisades?
Oui, je suis très frappé à ce sujet. Si vous prenez l'histoire de France de Jacques Bainville, l'histoire de France pour les enfants, la petite histoire de France qui date de un petit peu après la guerre de 14, je n'ai pas l'année en tête, mais c'est dans les années 20, il présente, et comme une évidence, les croisades comme un des grands et des plus beaux moments. Il le dit en toutes lettres, il dit que c'est un des plus beaux moments de l'histoire française, puisqu'il y a beaucoup de Français.
L'histoire universelle.
Non, mais il lui fait une histoire de France, et il s'appuie sur le fait qu'il y a beaucoup de Français, c'est quand même une aventure française qui est née en France, avec beaucoup de chevaliers français, etc. Et il dit comme une évidence que c'est un des plus beaux moments de l'histoire de France, et que c'est la page la plus glorieuse de l'épopée française. Et lorsque Bainville dit ça dans les années 20, il ne fait pas de la provocation, il dit une chose qui est lue par tout le monde comme une évidence. Et 80 ans plus tard, 90 ans plus tard, ça serait une provocation énorme de dire que les croisades sont un des plus grands moments de l'épopée française. C'est là où on voit l'évolution extraordinaire, le retournement des mentalités.
Attendez, moi je voudrais ajouter une remarque de touriste. Hein. J'ai visité Israël, la Terre Sainte, il y a plus de 20 ans. Et j'étais frappé d'une chose, c'est que les monuments qui sont beaux, que l'on admire, à l'exception unique de la mosquée d'Omar, c'est ce que les croisés ont laissé.
Ils en ont laissé quelques-uns.
Et qui remontent donc au XIIIe siècle pour les plus récents. Et les croisés ne sont restés que deux siècles. Donc je suis, alors peut-être vais-je
traverser
de chauvinisme, mais il paraît d'ailleurs que je n'ai pas vu ce qu'il y avait de mieux, parce qu'il paraît que les châteaux forts de Syrie, les craques,
c'est
extraordinaire. Donc,
oui.
Franchement, visiter sans œillères l'Israël, et vous voyez quels sont les beaux monuments, les belles rues, les belles architectures que vous voyez, vous ne verrez que ce qu'ont fait les croisés.
Oui.
Et alors, ce que je veux dire, c'est que sur les croisades, on nous dit, vous dites, il y a eu tout de même des bavures. Et c'est vrai. C'est vrai que dans l'aventure des croisades, il y a quelques pages un peu sombres.
Vous faites la guerre sans bavure,
mais voilà,
on ne croit pas.
Si,
non.
Quel est l'épisode de l'histoire, même la plus glorieuse, qui se soit passée sans ici ou là, là où il y a Henri des Montaigne.
Alors, la bavure à laquelle j'avais pensé, c'est la quatrième croisade, qui n'est pas arrivé à bon port, puisque les croisés se sont arrêtés à Constantinople et se sont emparés de l'Empire byzantin.
Alors là, écoutez, vous ferez une émission d'une heure là-dessus, parce que nous n'allons pas...
Vous êtes candidat.
Oui.
C'était quand même amusant, la quatrième croisade, si je puis dire.
Oui. Non, mais la quatrième croisade est une...
Les Grecs nous en veulent encore, hein.
Oui, ils n'ont pas tort, tout à fait, mais ils ne comprennent pas la raison. Ils croient que c'est une affaire de haine religieuse. Nous en avons un peu hérité, il faut bien le dire. Repensez à la Bosnie ou au Kosovo, par exemple. Mais en réalité, c'était une affaire politique, parce que, et là j'essaye d'être clair, l'Empire d'Occident n'a jamais toléré l'Empire d'Orient.
Alors Marie-Yvonne aimerait bien avoir la parole.
Oui,
et les auditeurs par sa charmante voix. Donc Marie-Yvonne, vous avez la parole.
Oui, alors nous rappelons à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie. Henri de Lesquin reçoit le professeur Jean-Louis Beaumont, maire de Saint-Maur-des-Fossés, Michel de Gégère, écrivain, Jacques Hers, historien, écrivain, et nous tentons de répondre, vous tentez, messieurs, de répondre à la question « La France doit-elle faire repentance ?»
Mais alors c'est la France, mais ça aurait pu être aussi l'Occident, hein.
Alors, quelques messages. Un auditeur, ce n'est pas l'institution Église catholique qui est responsable de tous les maux dont on voudrait qu'elle rende compte, mais ce sont plutôt des hommes d'Église, certains hommes d'Église. Un auditeur, la phrase concernant Mitterrand, ce dernier aurait ajouté « Vous voulez donc que je me convertisse ?»
Oui, il l'a dit, absolument. C'était un humoriste.
Alors, un auditeur, repentance, c'est à mon sens camoufler les exactions d'autrui. Il y a en plus d'esclaves, du fait des arabo-musulmans, que le traite transatlantique. Pas toujours très clair. On nous parle sans cesse des tortures effectuées par l'armée française en Algérie, alors qu'un livre préfacé par Jean-Pierre Rondeau contient maintes photos de nez coupés, oreilles coupées, montrant les tortures. Enfin, les croisades, elles ont eu lieu dans une terre chrétienne qui a été conquise par des musulmans. Puisque je parle des croisades, j'ajoute un message à votre adresse, Jacques Hers, d'un auditeur. Ne pensez-vous pas que les croisades ont été dirigées contre Byzance plutôt que contre les Arabes ? Je reviens à notre propos.
Non, je ne le pense pas.
Un auditeur, M. De Gégère, confond recension et compilation. La recension est la comparaison entre l'édition récente d'un ouvrage avec le texte original. Une auditrice, la repentance est toujours à sens unique, toujours contre les Occidentaux. Les musulmans, les esclavagistes noirs ne se repentent jamais. Tout ça pour nous faire payer. Moi, je ne me repens de rien. Si les Occidentaux étaient moins bêtes, ils diraient une fois pour toutes, allez vous faire voir.
Soyons pas grossiers.
Un auditeur, ne pensez-vous pas que Benoît XVI devrait faire des repentances de Jean-Paul II ? Une auditrice, des invités de ce soir connaissent-ils le livre « La tyrannie de la pénitence » ?
Non.
Oui. Essai sur le masochisme occidental de Pascal Bruckner aux éditions Grasset. Un auditeur, il faut expliquer la repentance par l'opportunisme éternel des princes de l'Église. un auditeur au Parti communiste. On est tout à fait d'accord avec votre thèse. L'URSS et le communisme ne sont pas coupables du mauvais comportement de quelques individus.
Ah, ça, c'est notre interlocuteur de l'UEIF qui revient régulièrement. Dès qu'on dit que les croisades, c'est bien, il envoie un message pour dire non, pas du tout.
Mmh. Alors, j'ai connu
déjà. Nous avons un auditeur régulier qui est un représentant de l'UEIF auprès de Radio Courtoisie.
Une auditrice, on nous fait souvent le coup de la repentance avec d'énormes mensonges. Un exemple, les fameux 75 000 fusillés du Parti communiste n'auraient été en réalité que 4 500 maximum, je n'arrive pas bien à lire, ou 45 000, ça plus. Si toute la repentance est basée sur le même système, on peut s'asseoir dessus, c'est pas très beau non plus. La Sainte Inquisition fut une excellente institution d'église. C'est l'Inquisition qui a créé les avocats, appelés à l'époque les Boniviri. On ne peut, si l'on est vraiment catholique, que regretter sa disparition. Et enfin, un auditeur, avez-vous pris connaissance du livre de Bruno Ballardini intitulé « Jésus lave plus blanc, c'est de la haine anticatholique pure ».
Alors, est-ce que vous voulez répondre à quelques-unes de ces questions? Moi, je suis quand même frappé par une question qui met en évidence le caractère unilatéral et sélectif de cette opération de repentance. Alors, ça nous éloigne un peu des faits historiques,
ah oui.
Pas complètement. Michel de Gégère en parle un peu, mais pas beaucoup dans son livre. Il en parle un peu quand même. Et il dit, on nous parle des torts que les chrétiens ont eus envers les non-chrétiens, que les catholiques ont eu envers les non-catholiques, mais pas beaucoup de ce que les autres ont fait à nous. Michel Leger.
Alors, on pourrait dire que ça n'est pas une réponse. On pourrait dire que...
Politiquement, si.
C'est tout de même un peu une réponse de cours de récréation. C'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre. Mais avant même de rentrer dans ce débat, c'est vrai qu'il est d'abord nécessaire d'examiner la réalité des faits qui sont reprochés aux catholiques, à l'Église, aux occidentaux, à la France. C'est déjà la première chose à faire. Quand l'on parle de l'Algérie et que l'on met les nez coupés en avant, c'est autre chose, car la violence terroriste imposait probablement un certain nombre de méthodes que, bien confortablement dans notre studio bien chauffé, nous réprouvons. La mise en avant de la menace à laquelle on a été obligé de faire face a une signification. Sinon, je ne pense pas que le fait que d'autres civilisations, d'autres religions, d'autres pays aient commis d'autres méfaits dont on ne parle jamais soit une justification suffisante. Mais peut-être que ce caractère unilatéral donne en revanche la clé de la vraie signification de la repentance que l'on exige de nous et qui, pour faire bref, est à la conjonction de l'action du lobby cosmopolite qui, depuis des décennies, dans les pays occidentaux, essaye de culpabiliser les vieilles nations chrétiennes pour donner l'horreur du sentiment national et promouvoir le cosmopolitisme. Ça, c'est un premier courant qui est très agissant dans nos sociétés. Et puis, d'un deuxième courant qui est interne à l'Église catholique, qui est un courant, je dirais, néo-moderniste, qui veut remettre en question tout l'enseignement de l'Église avant Vatican II. Et pour remettre en question cet enseignement de l'Église avant Vatican II, pour que Vatican II soit le nouvel évangile auquel on puisse seulement se référer à l'exclusion de tout autre enseignement, de tout autre encyclique, de tout autre texte, eh bien, pour que l'on puisse répudier toute la tradition de l'Église, il faut dire que cette tradition a été porteuse de fautes, de crimes, d'erreurs.
Alors, permettez que nous sortions un peu du sujet de votre livre. Moi, j'aimerais bien que nous parlions d'un sujet où la sélectivité de l'opération repentance est manifeste, et dont, je crois, Jacques Hertz, je suis même sûr, parce que j'ai lu votre ouvrage, enfin, pas le dernier, mais le précédent, sur l'esclavage.
Oui.
Alors, sur l'esclavage, on nous parle de la grande traite des Noirs organisée par les Occidentaux, on ne nous parle pas des deux autres traites.
Non, il n'y a pas eu vraiment tellement de repentance, mais il y a eu la fameuse loi, n'est-ce pas, qui interdit qui dit qu'il faut privilégier l'étude de la traite atlantique. Cette loi correspondait à un état d'esprit, parce que, à part quelques auteurs, qui sont très rares, deux auteurs anglo-saxons en particulier, et alors en France, les travaux de Bernard Lugan, n'est-ce pas, mais avant cela, toute l'école historique française a abondé dans ce sens, en disant que ne parlons pas de la retraite musulmane. J'ai connu, j'ai fait quelques cours à Abidjan pendant 3 semaines, et j'ai connu un de mes collègues, jeune collègue pour moi à l'époque, qui travaillait là-dessus. Je ne dis pas le nom parce que c'est un... Je n'aime pas ce qu'il a fait par la suite. Bon, en effet, ce qu'il a fait, il a fait un colloque international à Nantes sur l'histoire de l'esclavage. Les actes comptent 2 volumes. Il y a quelque 34 ou 35 articles, n'est-ce pas? Il y en a 30 sur la traite atlantique.
Alors, parlez-nous des autres traites.
Eh bien, les autres, il y en a 2.
Vous savez que la plupart des Français ne savent même pas qu'il y a d'autres traites.
Oui, oui.
Que la traite des Noirs, ça n'a pas simplement été faite
par les Occidentaux. Les autres traites, c'est la traite musulmane.
Et la traite interafricaine aussi.
Oui, la traite interafricaine aussi, oui. Mais sur ces 3 articles qu'on parlait, il y avait un Français et les 2 autres étaient des Africains. Et c'est des Africains que viennent les premiers grands travaux sur la traite africaine et sur même la réalité de la traite atlantique. Plus alors le problème. Alors moi, naturellement, ça, quand vous lirez mon livre, vous verrez cela. Une de mes phobies, c'est aussi toute la statistique.
L'histoire assassinée.
Oui, la statistique, je n'y crois pas pour la période dont nous parlons en ce moment, parce que les chiffres sont impossibles. Je suis l'un de mes maîtres qui disait, statistique, c'est de l'incertain avec de l'à peu près. L'autre ne tombait pas du tout. C'est de l'à peu près avec de l'incertain, n'est-ce pas?
Permettez que je rappelle la formule de d'Israeli qui est bien connue. Vous savez, il y a 300...
Non, celle-là, je ne la connais pas.
Alors, d'Israeli disait, il y a 300... Alors, je pourrais le dire en anglais, mais malheureusement, je parle mal anglais. Il y a 3 sortes de mensonges. Le mensonge, le satané mensonge
et la statistique
et voilà, qui est donc la forme la plus aggravée du mensonge.
Je crois pas qu'ils peuvent tous mentir, mais ils s'amusent à faire ça. C'est une sorte de jeu d'enfants, de grands enfants, de vieux enfants.
Dans la deuxième partie de notre émission, vous ne serez pas Jacques Hers, mais où Jean-Louis Beaumont et Michel Legère seront, nous allons parler du bilan de la majorité sortantes, notamment en matière d'insécurité et de violence.
Dire,
et là,
oui,
nous aurons à parler de la certitude des chiffres et de la manipulation des statistiques.
Alors, ce que je veux dire, moi, je ne me suis pas lancé, je ne me lancerai jamais dans une évaluation statistique.
Vous savez qu'un historien qui doit s'appeler Pietré Genouillot, je crois.
Oui, oui.
L'a fait.
Oui.
Grenouillot.
Pietré Grenouillot.
Et a donné des chiffres, je crois que c'est 11, 14 et 17.
Oui.
11 millions pour la traite transatlantique, 14 millions pour la traite interafricaine et 17 millions pour la traite.
Alors, vous voulez mon opinion. Moi, je trouve que ce qu'il a dit là, c'est très courageux, remarquable. Ça remet les choses au point, mais je n'adhère pas sur les chiffres. Je ne crois pas comment l'on peut... La traite atlantique peut-être, et encore, parce que vous avez les registres douaniers. Vous croyez qu'il y a des capitaines qui n'allaient pas tricher sur les... Enfin, bon, au moment de la fraude, de faire les...
Oui, parce qu'on était imposé sur le nombre d'esclaves transportés.
Oui, bien entendu. Alors, enfin, voyons. Bon, mais d'un autre côté, aussi, il y a eu aussi des morts, beaucoup, et puis, enfin, on exagérait beaucoup. Donc, peut-être qu'elle est un peu plus forte que ce qu'il trouve. Mais surtout, ce que ni lui, ni personne n'a pu faire, c'est de compter tout ce qui passait par le Sahara. Vous voyez compter les caravanes jour par jour et savoir combien. En réalité, moi, j'ai tranché comme ça. Ça n'a pas plu beaucoup à mon éditeur qui, pour ce livre-là, m'a fait enlever même toute mon introduction, qui a été reprise ailleurs. C'est que moi, je me base sur une question qui est très simple. La traite atlantique, c'est où, en gros, au grand maximum, 2 siècles. L'autre, c'est plus d'un millénaire.
Elle a commencé avant et elle a fini après.
Elle a commencé dès l'islam, dès le début. Et puis alors, je fais aussi une observation que l'on oublie souvent. Vous prenez la traite atlantique, ce n'est pas beau, rien dans l'esclavage, bon, bien sûr. Mais enfin, ces Noirs des Antilles ou d'Amérique ont laissé une culture. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Il y a
une population nombreuse, ouais.
Non, mais une civilisation, une musique, quand même. Cherchez la culture noire dans les pays musulmans, il n'y en a pas.
Alors que sont devenus les Noirs qui sont arrivés dans les pays musulmans?
On faisait en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants, monsieur.
C'est clair.
Voilà.
Ah oui.
Voilà. On ne voulait pas d'enfants, ce qui fait que naturellement cette traite était infiniment plus nombreuse que celle...
Parce qu'il fallait renouveler indéfiniment par l'importation de nouveaux esclaves venus d'Afrique noire.
Absolument.
Alors qu'évidemment, en Amérique, les Noirs qui étaient venus avaient des enfants, se reproduisaient.
Oui, il y a de bons romans, là, vraiment remarquables sur les enfants d'esclaves et qui sont de nouveau esclaves plus ou moins, oui.
Voilà, donc alors pourquoi selon vous parle-t-on si peu de la vous avez écrit tout un livre sur la alors quel est rappelez-nous le titre de votre livre?
Oh bien c'est Les négriers en terre d'islam.
Les négriers en terre d'islam. Voilà. Alors vous avez écrit un livre sur le sujet, de fort intéressant, très documenté, et vous n'avez pas chiffré,
non,
mais vous avez montré l'ampleur du phénomène.
Voilà.
Alors expliquez-nous.
Le bon sens implique que, voilà.
Alors je ne dis pas que l'esclavage des uns est, enfin que la traite faite par les musulmans disculpe les occidentaux de celle qu'ils faisaient, mais quand même, il faudrait qu'on en parle un peu plus.
Oui, et puis surtout, alors cette autre chose, là, nous sommes en train de relancer, n'est-ce pas, ce qu'ont fait les musulmans. Mais même entre nous, on l'oublie souvent, si vous voulez, lorsqu'on parle de l'esclavage, on ne veut parler que des Noirs. Mais j'avais écrit, disant, ou presque, vous voyez, ça remonte à loin, un autre livre sur
les barbaresques.
Non, pas, oui, ça les barbaresques, bien sûr, mais non, ça peut peut-être vous étonner davantage, mais sur les esclaves blancs en Italie, au temps de la Renaissance, enfin des 14, 15 et 16 ans.
Excusez-moi, mais c'est de là que vient le mot esclave, vient de,
oui, bien
vient de slave.
Exactement.
L'esclave, c'est le slave.
C'était les slaves, et c'était une traite, alors qu'ils n'étaient pas conquérantes, hein, et ils prenaient très peu de. Ils allaient très peu chercher des noirs, c'était trop loin, puis ils n'en avaient pas. Ils ne voulaient pas non plus de musulmans. Parce que c'est très difficile de les garder esclaves, ils avaient des orientaux, ou plutôt des orientales. Et car c'est la traite considérable de la mer Noire, où les hommes sont pris et vont en Égypte, et ils sont mamelouks. Et
là, vous parlez des musulmans, pas des Italiens.
Oui, mais je dis, c'est les mêmes. Si vous voulez, dans les marchés de la mer Noire, et les marchés d'Istanbul ou d'ailleurs, ou de Caffa, les marchands d'esclaves vendaient les hommes aux Égyptiens et les femmes aux Italiens.
Je ne sais plus si j'ai lu dans votre ouvrage ou dans un autre que les Turcs des bords de la mer Noire vendaient leurs enfants quand ils en avaient trop pour les
nourrir. Les Tatars, plutôt, les
Tatars, mais les Tatars, je ne sais plus quelle sorte de Tatars, enfin bon, les Petchenegs, vendaient leurs enfants... Vendaient leurs enfants comme esclaves aux musulmans du califat de Bagdad.
Oui, mais ils vendaient aussi les filles, parce qu'ils ne pouvaient...
Leurs enfants des deux sexes, oui.
Pas pauvreté, mais alors la différence, n'est-ce pas, celle-ci, c'est que cet esclavage, Florence, Gênes, Venise, n'est-ce pas, ils étaient très très nombreux, mais c'est un esclavage domestique, et l'esclavage n'est pas héréditaire. Les enfants de ces filles, et il y en avait... soit par mariage.
Elles n'étaient pas esclaves.
Elles ne sont pas esclaves. Et même, moi, ça m'a posé un problème quand j'ai étudié la société, même aristocratique de ces villes, la ville de Gênes que j'ai étudiée, c'est que non seulement elles ne sont pas esclaves, mais portent le nom du maître.
Ah oui.
Le nom de famille. Si bien qu'après, vous avez des générations, l'origine, on ne sait pas.
Mais je crois que c'était la même chose dans les plantations d'Amérique aussi bien.
Oui, mais comme ils sont noirs, on les reconnaît, n'est-ce pas?
en Roumanie, il y avait les Tziganes étaient des esclaves. Ils ont été esclaves longtemps.
Oui.
En Roumanie. Oui. Et dans la cité antique, elle était organisée pour utiliser la force des esclaves.
Alors revenons peut-être à la question religieuse, parce que j'ai lu dans le livre de Michel de Gégère, La Repentance, qu'une série de papes avait condamné l'esclavage.
Oui.
Ah, vous l'avez écrit?
C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Jean-Paul II qui l'a déclaré.
Mais vous l'avez quand même reproduit dans votre ouvrage.
Oui, mais j'ai reproduit ce que dit Jean-Paul II, parce que, là encore, c'est un exemple de manipulation médiatique. Jean-Paul II a demandé pardon pour la participation de chrétiens à la traite des Noirs.
Ah bah oui.
Bien, cette participation, elle est réelle. Des chrétiens ont participé à la traite des Noirs. Et en demandant pardon, Jean-Paul II fait un discours dans lequel il dit infatigablement tous mes prédécesseurs, enfin pas tous mes prédécesseurs, un grand nombre de mes prédécesseurs, qu'ils citent les uns après les autres, ont condamné ce commerce abominable, et, mais leurs avertissements n'ont pas été suffisants puisque ça a continué, et tel de mes prédécesseurs a renouvelé cette condamnation, etc. Ils citent toutes ces condamnations. Et encore une fois, la réduction médiatique est telle que ça donne dans les comptes rendus qui sont faits dans les journaux le titre suivant, Jean-Paul II demande pardon pour la participation de l'Église à l'esclavage.
Alors,
et avec, dans un livre que j'analyse qui s'appelle « Quand le pape demande pardon », cette imposture extraordinaire, c'est que c'est un livre qui présente 94 soi-disant demandes de pardon de Jean-Paul II à ce sujet. J'ai montré, je crois, dans mon livre que ce chiffre de 94 est une imposture absolue, car il n'y a absolument pas 94 demandes de pardon, mais c'est un chiffre magique, parce que comme il approchait de 100, ça a permis de véhiculer une espèce de mythe, qui est le mythe des 100 demandes de pardon de Jean-Paul II. Eh bien, la demande de pardon à propos de l'esclavage est intitulée par Luigi Accattoli, l'auteur de ce titre, « Mes prédécesseurs n'ont pas été fermes ». Alors, Jean-Paul II dit simplement « Les dénonciations courageuses de mes prédécesseurs n'ont pas été suffisantes pour faire arrêter ce crime abominable » et traduit par les falsificateurs, cela donne « Je demande pardon parce que mes prédécesseurs ont été, n'ont pas
alors,
été fermes ».
Michel de Gégère, je me fais m'originer par un auditeur à cause de vous, un auditeur qui me dit « Monsieur de Lesquin, vous avez parlé plusieurs fois du beau livre, de l'excellent livre de Michel de Gégère, mais sans rappeler son titre et son éditeur. Donc je vais réparer cette question. C'est Michel de Gégère, de D-E plus loin, J-A-E-G-H-E-R-E, La Repentance, Histoire d'une manipulation, aux éditions de Renaissance catholique. Et d'ailleurs, je lis dans la présentation, ce texte a été publié pour la première fois en 2002, en introduction des actes de la 8e université d'été de Renaissance catholique, pourquoi ne demandant pas pardon. Il a été revu et augmenté en 2006 pour la présente édition. Et puis nous recevons aussi avec le professeur Jean-Louis Beaumont, mais aussi le professeur Jacques Hers, qui a écrit L'Histoire assassinée aux éditions de Paris.
Un mot, si vous permettez, encore sur l'esclavage, la manipulation qui est celle-ci. Oui, les peuples d'Occident, les chrétiens. Mais je ne trouve nulle part dans nos journaux, magazines, ni dans nos manuels une chose, c'est que les Espagnols ne l'ont jamais pratiqué. Non.
Les Espagnols d'Espagne?
Oui.
Mais en Amérique latine, si.
Non.
Comment ça?
Les Portugais à tour de bras, mais pas les Espagnols.
Il n'y a pas d'esclaves au Pérou, au Mexique?
Non. Il y a des serfs, plus ou moins.
Parce qu'il y a des stades intermédiaires entre l'esclavage stricto
sensu. Oui, bien entendu, mais si vous me demandez une définition de l'esclavage, personne n'y arriverait ici entre nous. Mais pour moi, un des critères, c'est la déportation.
Ah non, c'est l'objet. C'est que, non, parce qu'un esclave qui est sur place n'est pas déporté.
Oui, mais pour la traite, pour si vous voulez, ce qui est terrible, c'est d'arracher un homme ou une femme à leur famille, à leurs enfants, les transporter, tandis que exploiter d'une façon plus ou moins abusive, ben nous l'avons fait partout, ça c'est sûr. Or Isabelle la catholique n'a jamais toléré l'Espagne, et c'est l'esclavage, et c'est l'une des questions de son différent avec Christophe Colomb.
Et alors, d'ailleurs,
les Portugais à tour de bras.
Ça me fait penser à une remarque importante, c'est que on parle toujours de l'esclavage qui est l'appropriation individuelle d'un homme devenu un objet meuble. Mais on oublie une forme d'esclavage collectif, c'est-à-dire que les régimes communistes qui ont pratiqué la déportation sous une grande échelle ont institué une forme d'esclavage collectif. Le goulag, c'est l'esclavage collectif.
Ça, nous sommes d'accord.
Hein. Et ça n'est, je pense, pas mieux du tout que l'esclavage individuel. Hein. Je ne veux pas justifier l'esclavage individuel, l'esclavage privé, en le comparant à l'esclavage public organisé par le régime communiste, mais je fais simplement remarquer que le vocabulaire pourrait parfaitement être étendu. Le goulag, c'est une forme de l'esclavage collectif.
Mais pour Isabelle, vous savez, j'insiste beaucoup.
Isabelle la catholique.
La catholique, oui. Et c'est très net. Quand les Espagnols, les premiers esclaves qu'ils ont voulu avoir, ce sont les gens des Canaries, n'est-ce pas, les Ganges. Ils en ont ramené. Les Génois, surtout, qui étaient très forts pour ça, ramenés en Espagne. Isabelle les a renvoyés et a exigé, n'est-ce pas, que les marchands remboursent l'argent.
Mais alors attendez, parce que vous...
Non, il n'y a pas d'esclavage.
Mais alors, comment sont arrivés les Noirs, qui sont quand même assez nombreux en Colombie, en Équateur, au Pérou?
Ah ben c'est après, ça. Mais c'est, ils ne sont pas si nombreux que ça.
Ah, dans le sud de la Colombie, dans le nord de la Colombie, pardon, ils sont
des Noirs. Ouais. Ensuite, les gens de... ça, je vous placez alors au 17-18e siècle, à ce moment-là, n'est-ce pas? Ça, c'est différent. Tandis que moi, je parle de la conquête et de la traite.
Si vous permettez, je peux, j'ai trouvé le texte dont vous parliez de Jean-Paul II, qui est intéressant, qui rappelle les interdictions de l'Église. Voilà ce qu'a déclaré Jean-Paul II le 1er avril 1995, lors de la visite ad limina des évêques brésiliens. En ce qui concerne l'esclavage africain, j'ai déjà eu l'occasion d'implorer le pardon du ciel pour le honteux commerce d'esclaves auquel participèrent de nombreux chrétiens et qui, partant du continent africain, fournirent en main d'œuvre les terres nouvellement découvertes. En ces tristes époques, les interdictions de mes vénérables prédécesseurs Pie II en 1462 et Urbain VIII en 1693 ne furent pas suffisantes, pas plus que les invectives de Benoît XIV, Bulle Immensa Pastorum 1740, qui alla jusqu'à lancer l'anathème sur ceux qui possédaient, vendaient et maltraitaient des esclaves ou qui réduisaient les Africains en esclavage. Malgré la société et la culture de l'époque, l'Église ne cessa jamais de défendre les esclaves contre l'injuste situation dont ils étaient victimes, comme en attestent par exemple les constitutions de Bahia en 1707, première règle canonique élaborée en territoire brésilien qui tentèrent d'atténuer autant que possible les terribles conséquences de l'esclavage.
Alors, dans la comparaison que l'on fait hein, entre les trois formes de traite des Noirs, la traite transatlantique, celle des Occidentaux, faite par les Occidentaux, la traite interafricaine et la traite musulmane, il y a une autre différence. Il y a une autre différence, me semble-t-il, c'est que quasiment toujours, une différence essentielle, quasiment toujours, les esclaves qui étaient achetés par les négriers sur la côte d'Afrique noire avaient été réduits en esclavage par des Noirs, par d'autres Noirs, alors que les musulmans procédaient à des razzias eux-mêmes, notamment sur les côtes de Zanzibar, et ils allaient eux-mêmes voler.
Ils achetaient
à des Noirs, mais ils intervenaient militairement.
Il y avait toutes sortes de razzias, comme vous dites, mais c'était plus simple aussi d'aller sur un marché, évidemment.
Voilà, donc les deux existaient.
Tandis qu'il n'y a pas de razzias de la part des Occidentaux.
Il y a eu quelques exemples, paraît-il, de Portugais qui ont fait ça un peu au Sénégal.
En épousant des filles du pays, en épousant des filles de rois noirs. Les Portugais l'ont fait, ça. Mais puis, c'était surtout pas vraiment des Portugais de Lisbonne. C'était les gens de Madère, de São Tomé, de cela pour la culture
Mais il y a un mot que nous n'avons jamais prononcé jusqu'à présent, que je pense qu'il est quand même essentiel pour cette histoire de repentance, c'est l'anachronisme. Est-ce qu'on a le droit de juger le passé avec les lunettes du présent?
Ça, c'est très juste.
Excusez-moi, mais c'est quand même fondamental. D'autant plus, ne serait-ce que, je ne fais pas de matérialisme historique, mais... nous vivons dans une société de relatif confort, de relative aisance. Nous parlons de sociétés anciennes qui étaient beaucoup plus pauvres, où les gens étaient toujours au bord de la famine, de populations relativement prospères peut-être dans certains cas, comme les villes italiennes, mais la pauvreté était considérable. Est-ce que ça ne n'induisait pas une vision complètement différente libertés.
Écoutez, il est très délicat d'étudier des conditions de... J'ai parlé tout à l'heure des orientales, n'est-ce pas? Des filles qui sont achetées dans la mer Noire. Il y a aussi beaucoup de Grecs qui ont été... Alors, de quoi s'agissait-il? Elles étaient orthodoxes. Et puis, il y avait aussi, alors, de la mer Noire, des païennes. Mais elles ont fui. Elles ont fui la conquête turque. Donc, elles payaient leur voyage à des trafiquants pour aller en Occident, en disant, ben oui...
Je me vends comme esclave.
Eh oui. Comme il avait de l'argent, lui, les vendait ensuite comme esclave. Mais avec cette différence quand même, que plutôt que de finir dans un RM turc ou on ne sait trop quoi, n'est-ce pas, il finissait quand même, alors là, je peux vous dire, si vous avez 2 minutes, je vous donne le détail, elle pouvait vivre dans des familles italiennes, domestiques, mais pas pire que d'autres domestiques, et pouvant se marier, libérer immédiatement. Parce que dans les actes de notaire génois, moi j'ai bien étudié ça à Gênes, c'est la ville que je connais le plus, vous avez des contrats d'assurance où le patron de l'esclave, le maître de famille, assure son esclave parce qu'elle va accoucher. Il y a des dangers, n'est-ce pas? Et celui qui paye la prime c'est ou lui-même s'il se trouve responsable de l'enfant, ou c'est le voisin qui, est venu dans la famille plus ou moins. Alors ce que l'on considère là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on parle toujours de mauvaise hygiène, de persécution, de maltraitement. La prime est environ de 2%. Il y a un risque de 2%. Je vous assure qu'il ne s'amuse pas avec les finances.
Oui, donc ce n'est pas si important. Oui, alors moi je voudrais un peu chercher querelle à Michel de Gégère à propos de son beau livre, parce que je le trouve trop charitable. Hein. C'est-à-dire que vous nous faites le coup, alors c'est pas le chef qui est mauvais, c'est l'entourage. Hein. C'est l'entourage. Vous faites beaucoup ça, vous essayez beaucoup de disculper le pape Jean-Paul II de tout ce qu'il a dit sur la repentance, en expliquant qu'on a extrapolé, qu'on a déformé ce qu'il a dit. Vous citez des documents qui n'ont pas le caractère officiel qu'ont ses propres discours. Il n'empêche que, d'une part, il a laissé ses documents, alors vous allez peut-être nous citer les documents dont je parle, que j'évoque, il a laissé circuler ses documents sans les désavouer formellement. Et surtout, la prudence est une vertu cardinale, et il a ouvert la boîte de Pandore d'une certaine manière. Enfin écoutez, toutes ces déclarations sur la repentance, aussi bien inspirées étaient-elles, ne devait-on pas deviner, prévoir quelles auraient ses conséquences calamiteuses pour l'image de l'Église et sa place dans le monde?
Alors c'est une question difficile.